ce double aspect de l'œuvre de Carpaccio. Savant, humaniste, renaissant et attaché au récit légendaire, c'est peut-être le cycle de la Scuola di Schiavone qui le représente le mieux. Il faut dire que l'œuvre est plus tardive. La vie de Sainte-Ursule est quasiment une des 1490, je crois.
C'est une des premières œuvres.
Donc, avec la Scuola di Schiavone, Carpaccio est possesseur de tous ses moyens, me semble-t-il. Et on y trouve alors les deux éléments, celui de la légende et celui du savoir quasi abstrait, absolument représenté et, je dirais, symboliquement établi. Et, par exemple, dans la légende de Saint Jérôme, il y a un tableau qui fascine dès qu'on le voit. C'est Saint Jérôme et le lion. On voit un honorable vieillard qui entre dans le tableau, suivi par un lion. La légende est connue, Saint Jérôme lui a enlevé de la patte une épine qui le faisait souffrir, le lion s'est pris de passion pour celui qui l'avait soigné, et le suit. Or, qu'est-ce que fait Saint Jérôme? Il revient, évidemment, auprès de sa communauté et des moines, qui voient le lion et qui sont terrorisés. Mais le génie de Carpaccio, et qui fuit donc, le génie de Carpaccio, c'est d'avoir montré ses moines habillés d'une robe blanche et d'un surplis presque noir. Et en fuyant, la robe blanche accompagne le corps, mais le surplis traîne un peu derrière. Si bien que tout le tableau est une sorte de dessin, de diagonale, du diagonale de ses surplis, qui donne en effet au mouvement et à la scène une vie tout à fait saisissante, tout à fait fascinante.
Il faut bien la fuite et les vêtements qui volent.
Absolument.
Et il y a même un de ces moines que l'on voit en fait de face et qui est en lui-même une espèce de diagonale en raccourci, qui fuit vers le fond du tableau.
Donc il y a un magnifique mouvement et qui est rendu avec quelque chose de très très simple. Et qui, bien entendu, exigeait l'intérêt de Carpaccio pour le dessin. Parce qu'en effet, ces surplis noirs qui traînent derrière chacun de ceux qui les portent sont un dessin, c'est une ligne. C'est comme une ligne. Donc vous voyez, on a une sorte de synthèse de ça. Une grande réussite formelle, une très très grande réussite formelle, entièrement versée au compte du récit et réalisée avec des moyens très 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 simples. Quasi naïfs. Et qui donne en effet à la légende toute l'ampleur de la réussite picturale.
Il s'inscrit dans cette culture vénitienne très particulière du point de vue technique, qui est la culture de l'huile sur toile, si je puis dire, si on peut parler de culture, disons, le procédé technique qu'inventent les Vénitiens de l'huile sur toile, qui leur permet donc de révolutionner d'une certaine façon complètement la touche, le goût pour les empattements. Et d'ailleurs, Carpaccio, alors évidemment, on a perdu beaucoup d'huile sur toile de Giovanni Bellini, puisque les décors du Palais Ducal ont été entièrement détruits à la fin du XVIe siècle. Mais en revanche, on a beaucoup de décors à l'huile sur toile donc de Carpaccio, et notamment parmi les premières œuvres qu'il a réalisées, c'est-à-dire les superbes toiles de la Scuola de Sainte-Ursule. Et là, on s'aperçoit qu'il utilise déjà un certain nombre de procédés, si je puis dire, picturaux, qui appartiendront vraiment, qui fonderont l'originalité de la technique vénitienne, c'est-à-dire qu'il travaille sur des toiles en général avec une trame assez grossière, qui permet ainsi de profiter justement de l'irrégularité du support pour faire vibrer en quelque sorte la touche, pour la laisser apparaître et donner donc cette espèce de sensualité, en quelque sorte, du fer pictural, qui deviendra l'une des grandes caractéristiques de la touche vénitienne, à commencer par Titien, bien sûr, mais ensuite chez Tintoret, chez tous les grands peintres du XVIe siècle. Donc on se rend compte que, et c'est quelque chose qu'on ne note peut-être pas assez, que ce qu'on croit appartenir justement en propre à la couleur vénitienne du XVIe siècle est déjà présent, finalement, chez Carpaccio, et donc probablement aussi chez d'autres peintres vénitiens du XVe siècle, dans leur attitude face à cette technique que permet le support irrégulier de la toile.
Et c'est en regardant aujourd'hui des agrandissements photographiques, oui, de ces toiles, qu'on se rend vraiment compte de cette technique et qu'on se rend compte effectivement de l'irrégularité de la toile en dessous, et puis des touches de peinture qui parfois, même pour les visages, sont des touches presque abstraites, enfin, qui ne sont pas complètement dessinées, mais il faut dire qu'il dessine de si petits personnages parfois.
Oui, mais il les dessine souvent avec justement une touche assez libre. Si vous regardez justement, vous parlez à raison des agrandissements photographiques qui effectivement peuvent apprendre beaucoup, et on s'aperçoit soit. Donc, par exemple, pour les toiles de Sainte-Ursule, qu'il utilise déjà souvent une toile à trame en arête de poisson, si vous voulez, d'une certaine façon. Et donc, justement, il tire parti des reliefs de cette toile pour briser son coup de pinceau et donc pour avoir un fer par endroit, même pour les... Ça se voit évidemment d'autant plus sur les petits personnages, presque impressionniste d'une certaine façon, ce qui peut expliquer aussi la séduction qu'il a exercée sur beaucoup d'amateurs à la fin du 19e siècle, qui voyaient cette espèce de sensibilité à la couleur qui pouvait déjà leur évoquer certaines choses qu'ils aimaient à l'époque.
Donc je crois que Carpaccio introduit ça à Venise à un moment tout à fait particulier de l'histoire de Venise, qui est, il faut bien le dire, d'abord une république, ce qui est très singulier en Italie, ce qui est très singulier dans le monde à la même époque, et qui est une république aussi libérale que possible, étant donné l'époque, c'est-à-dire la fin du 15e et le début du 16e. Pétrarque dit à un moment donné que c'est le lieu, c'est un des rares lieux où fleurit la liberté en Italie. Et en effet, la liberté fleurit à ce moment-là, mais pas seulement la liberté. Il y a de grands chantiers qui se mettent en place, notamment celui du Palais Ducal, où Carpaccio va réaliser un certain nombre de fresques qui seront détruites par deux incendies consécutifs. Celui, bien entendu, des scuole, des écoles. Ces écoles représentent des métiers et vont même jusqu'à représenter des corps de métiers ou des associations qui accueillent des étrangers. On peut dire que d'une certaine façon, Venise à cette époque est bien en avance sur ce qu'est par exemple la France aujourd'hui. Il y a en effet des regroupements d'étrangers qui sont là pour défendre leurs intérêts auprès du pouvoir. Et Carpaccio va être lié à eux, puisqu'il est lié à cette Scuola de Schiavoni, qui en vérité est une école de dalmates, de slaves, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Adriatique, qui font du commerce et qui sont installés là et qui sont des gens très 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 puissants. Donc il y a un énorme mouvement vénitien à l'époque qui encourage d'une certaine façon ce qu'apporte de moderne l'œuvre de Carpaccio et ce qu'elle apporte à Venise, c'est-à-dire ce qu'elle apporte de ce qui se fait au centre de l'Italie dans la cité vénitienne.
Est-ce qu'on peut dire, Marcelin Plenet, que c'est lui qui apporte les valeurs de l'humanisme à Venise ?
C'est lui qui les illustre, en tout cas. Les valeurs de l'humanisme vont être apportées à travers un grand humaniste vénitien qui va avoir une influence assez considérable, d'ailleurs, notamment sur Giorgione, qui est Pietro Bembo, qui écrit un grand poème qui s'appelle « Les Asolani » et qui, en effet, après avoir été ambassadeur à Florence, vient à Venise et convertit l'humanisme florentin, qui encore une fois est un humanisme néoplatonicien et assez idéaliste, et très lié en effet à cet idéalisme, qui le convertit à la vie vénitienne, et à un mode de vie qui est très particulier à Venise. Lorsque Pétrarque, bien plus tôt, dit déjà que Venise est un lieu où la liberté règne de façon tout à fait exceptionnelle, eh bien on voit, contemporain du milieu de la carrière de Carpaccio, c'est-à-dire au début du tout début du XVIe siècle, on voit que Venise possède par exemple le plus grand nombre de courtisanes et même de prostituées de toutes les villes d'Italie, que la vie y est célébrée, qu'un grand vénitien, une grande famille vénitienne qui organise une fête, ça doit être autour de 1520, quelque chose comme ça, invite des courtisanes qu'elle déguise en patriciennes pour participer à cette fête. Donc il y a à la fois une ouverture aux idées et une ouverture aux mœurs nouvelle qui est tout à fait exceptionnelle et qui est liée à ce qui va apparaître aussi dans l'œuvre de Carpaccio, qui est liée à ce qui est particulier à Venise, c'est-à-dire un luxe quasi oriental. Bien évidemment, toute la vie de Venise, toute la fortune de Venise, tout le commerce est tourné vers l'Orient. Ce qui sert aujourd'hui encore de symbole à Venise et qui se trouve sur le porche de la basilique de Saint-Marc, les fameux chevaux de Venise, viennent de Constantinople. Il y a un mode de vie vénitien qui est très luxueux et d'un luxe très particulier pour l'Italie parce que c'est un luxe quasi oriental. Luxe que l'on retrouve d'ailleurs dans l'œuvre de Carpaccio. Autre événement sur lequel on n'a pas vraiment d'informations supplémentaires mais qui est quand même tout à fait étonnant, il semblerait, là encore il y a des historiens qui en discutent, il semblerait que Gentile Bellini, se rendant donc à Constantinople pour faire des portraits du sultan Mohammed II, aurait décoré une partie du palais que ce sultan faisait construire sur le Bosphore et aurait décoré des chambres érotiques. Il n'y a évidemment pas d'exemple dans l'autre œuvre de Bellini qui démontre ça. Mais, vrai ou faux, une semblable anecdote ne peut surgir que sur un fond qui suppose suffisamment de liberté à un Vénitien pour pouvoir faire cela. Il faut savoir aussi que les peintres vénitiens, contrairement aux autres États, disposaient d'une liberté dans le traitement des cycles de légende qu'aucun autre peintre italien d'aucun autre État ne disposait. Mmh. Ce qui, en effet, a sans doute permis à Carpaccio d'inventer cet accès familier à la légende, de proposer comme approche immédiate de la légende, des éléments familiers qui introduisent à quelque chose qui ne sera pas familier et qui va même être difficilement crédible.
Alors là, c'est peut-être pas tant ce luxe oriental, mais ces courtisanes, par exemple, que l'on déguise en patricienne. Ce tableau des deux courtisanes de Carpaccio pose question. Alors on n'est pas d'accord sur cette interprétation.
Absolument, c'est un tableau qui pose de nombreuses questions. Il semblerait que c'est un tableau qui a été tronqué. Mais bien, c'est un tableau quasi emblématique de l'œuvre de Carpaccio. Si on parle de Carpaccio à qui que ce soit, immédiatement, les deux Vénitiennes vont surgir. Et c'est vrai que lorsqu'on passe devant ce tableau au musée Corrère, on est fasciné. C'est un tableau d'une très 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 grande beauté, qui, même dans l'interprétation qui semble aujourd'hui dominer, à savoir que c'était un diptyque qui vraisemblablement servait de porte à quelque chose. Le haut se trouverait aux États-Unis et représenterait des jeunes seigneurs en train de chasser sur la lagune, et le bas serait les deux dames qui ne seraient plus des courtisanes mais qui seraient des vénitiennes qui les attendent. C'est une très 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 belle idée. Ça, ce tableau a ceci de particulier, c'est qu'en effet, il est d'une certaine façon devenu emblématique de l'œuvre de Carpaccio, qu'on le sache ou qu'on ne le sache pas, qu'on se l'avoue ou qu'on ne se l'avoue pas, parce qu'en effet, il révèle quelque chose de l'intimité de la vie de Venise. Évidemment, ces deux dames sont sur une alta, c'est-à-dire sur un balcon à hauteur, comme il y en a des quantités à Venise, et elles sont dans l'intimité de leur séjour. On voit autour d'elles des animaux qui, bien entendu, ont aussi, comme toujours chez Carpaccio, une valeur symbolique, mais qui ont aussi une valeur anecdotique. On voit la façon dont les femmes de Venise étaient habillées, dont elles se tenaient. On voit que la plus jeune a un collier de perles, alors que la plus âgée a un collier qui est vraisemblablement en or ou en argent tressé. On voit les coiffures et la légende vénitienne qui veut que les vénitiennes devenaient plus blondes en mettant leurs cheveux au soleil. Donc on voit un certain nombre d'événements qui montrent la vie intime de Venise.
Pour les toilettes, ce qui lui plaisait surtout en ce moment, c'était tout ce que faisait Fortuny. Ces robes de Fortuny, dont j'avais vu l'une sur Madame de Guermantes, c'était celle dont Elstir, quand il nous parlait des vêtements magnifiques des contemporaines de Carpaccio et de Titien, nous avait annoncé la prochaine apparition. Renaissant de leurs cendres somptueuses. Car tout doit revenir, comme il est écrit aux voûtes de Saint-Marc, et comme le proclame, buvant aux urnes de marbre et de jaspe des chapiteaux byzantins, les oiseaux qui signifient à la fois la mort et la résurrection.
Il y a une figure qui, moi, m'a toujours fasciné. C'est une figure au premier plan, donc d'un jeune homme de dos qui a un grand chapeau de velours rouge Et grâce à la liberté de la touche, encore une fois, grâce à cette sensibilité pour la matière et pour la lumière qui est propre aux artistes vénitiens, Carpaccio donne à ce détail une force tout à fait étonnante qui attire l'œil dans le tableau, puisque le personnage est de dos, donc c'est une façon aussi de nous convoquer dans l'espace du tableau d'une façon tout à fait admirable. Et ce détail est complété là aussi par un rendu de la chevelure blonde de ce jeune homme qui est tout aussi admirable, et ensuite donc une grande veste de brocart avec donc les effets de soie, là aussi la lumière qui brille sur la soie, tout
la
cela,
lumière dans les cheveux,
la
aussi,
lumière dans les cheveux qui est quelque chose de tout à fait fascinant.
Il y a un aspect que vous évoquez à propos du studio de Saint-Augustin, à propos de la vision de Saint-Augustin, et que l'on va retrouver peut-être de différentes manières un peu partout dans son œuvre. Eh bien, c'est cette lumière, et ce sont ces éclats de lumière, qui sont de véritables perles de lumière, en fait, que l'on trouve absolument partout, sur tous les détails, dans les cheveux des gens, sur les visages.
Là encore, comme pour presque tout, la clé de ce qui pose question dans l'œuvre de Carpaccio ou de Venise. C'est-à-dire qu'en effet, ces sources de lumière, le plus souvent dirigées dans le Saint-Ursule ou dans le Saint-Augustin, le visage est éclairé par la lumière surnaturelle qui vient du côté, eh bien c'est tout simplement ce que vous constatez en vous promenant à Venise. Vous vous promenez dans une cale très sombre et vous avez brusquement au bout une source de lumière qui la traverse et qui éclaire de façon tout à fait inattendu, on dirait même presque miraculeuse, tant qu'on ne s'est pas aperçu que c'est un bâtiment tout simplement qui laisse passer le soleil, un pan de mur ou un pan de jardin. Je suis convaincu que on ne peut pas vraiment bien connaître Venise sans connaître Carpaccio. Il fait apparaître, enfin il précipite si vous voulez, la familiarité que l'on a avec la ville. Parce qu'en effet, il y a vécu, mais il n'y a pas vécu comme on vit à travers une ville en pensant à autre chose. Son vécu est le vécu de Venise. Et l'œuvre de Carpaccio permet de faire une économie dans l'approche de Venise et de donner à ce qui est d'abord une surprise plus ou moins déroutante lorsqu'on arrive pour la première fois à Venise, une familiarité qui permet d'entrer dans la vie même de Venise et dans ce qui fait sa qualité propre. Et évidemment, cette qualité propre, avant toute chose, même si on n'est pas sensible à l'architecture, c'est dommage d'aller à Venise si on n'est pas sensible à l'architecture, la première chose, c'est évidemment le fait que cette ville est entièrement constituée de lumière et d'eau. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait de l'eau partout fait que la lumière, évidemment, a toujours deux sources. Celle qui vient, bien entendu, du ciel, celle qui, se reflétant dans l'eau, se projette sur les architectures. Et rend en effet cette architecture, contrairement à ce qu'elle est dans beaucoup d'autres villes, où une architecture peut être parfaitement fabuleuse, mais reste toujours d'une certaine façon plate, c'est-à-dire quelque chose frontal, quelque chose devant lequel on se trouve frontalement, à Venise, toutes les architectures deviennent vivantes. Elles ne cessent de bouger, précisément parce qu'elles sont éclairées par une double lumière, la lumière du soleil et les reflets sur l'eau qui les rendent mouvantes. C'est-à-dire que l'architecture de Venise est une architecture vivante. Et je crois que Carpaccio a très bien perçu cela. Les lumières et les éclairages chez Carpaccio rendent vivants des éléments qui ne le seraient pas forcément dans un autre éclairage et dans une autre ville et dans une autre inspiration.
Voilà, c'est sur les visages aussi.
Regardez les sources de lumière, par exemple, dans le départ des ambassadeurs. Vous avez une source de lumière qui éclaire la scène principale, mais vous avez derrière trois ou quatre sources de lumière qui donnent en effet un mouvement à la scène et à l'ensemble. Alors que les personnages de Carpaccio ont toujours quelque chose d'un peu hiératique quand même, eh bien le fait de se trouver dans ces sources de lumière les métamorphose.
En entrant à San Giorgio degli Schiavoni, nous nous trouvons dans une petite pièce ayant à peu près les dimensions de la salle commune d'une de ces auberges anglaises à la mode d'autrefois. Peut-être le plafond en est-il un peu plus haut, avec ses poutres horizontales, étroites et nombreuses, pour donner une impression de richesse. Prenez une jumelle et regardez attentivement et longtemps les deux princes qui arrivent à cheval, à gauche. Le roi mort, avec son grand turban blanc, et derrière lui sa fille à la coiffe rouge, haute comme un donjon. Regardez-les bien, et longtemps. Car en vérité, et je vous le dis en bonne connaissance de cause, vous pouvez chercher ce qu'au cours des siècles notre monde a produit de plus étincelant, et vous ne trouverez rien qui égale ce petit ouvrage dans la douceur tranquille, vraie, résolue de son art accompli. Dans sa simplicité, il est supérieur à tout ce que je connais de plus précieux, car il porte en lui la joie parfaite de la première enfance et celle de l'âge mûr, unie à la force et à la splendeur de l'âge viril. Ceci est en fait à divers degrés un mérite commun à l'art de Carpaccio et à son esprit. Mais ici, vous le contemplez dans un véritable bijou, radieux, inestimable. John Ruskin.
Un autre exemple de cela, c'est à la Scuola dei Schiavoni, le Saint-Georges tuant le dragon, avec la princesse qui est derrière et qui se tient un peu en retrait, la lance du dragon qui traverse toute la peinture et qui souligne bien l'importance que Carpaccio accorde au dessin. Cette lance, en effet, est une sorte de dessin qui structure toute la peinture en traversant absolument tout le tableau. Et au pied du dragon, qui vient de recevoir la lance dans la gorge, qui lui traverse la gorge, au pied du dragon, on a les restes de ceux que le dragon a tués et a à moitié dévorés. Et là, on est dans quelque chose à la fois, parce qu'il y a des raccourcis dans ces restes de corps qui sont tout à fait étonnants. Il y a des morceaux de bras, des morceaux de mains, il y a des crânes.
Il y a une tête, un cou, qui semble lié à la terre. Tout en sanguine d'ailleurs.
Absolument.
Hein. Et cette tête-là qui sort de terre comme une plante aurait poussé de la terre.
On a aussi un corps qui est à moitié dévoré, c'est-à-dire qui n'a plus qu'une jambe et dont l'autre jambe est à moitié dévorée. Et on a ceci de quelque chose qui peut sembler en effet un peu naïf, mais qui a un charme fou et qui a un tel charme qu'il est très difficile aujourd'hui de regarder ce qui se trouve sous ce dragon sans penser à la peinture surréaliste. Sans penser à quelque chose en effet qui est à la fois de l'ordre d'un réalisme, mais qui, dans son charme et dans sa quasi-naïveté, devient plus que du réel. Et en effet, c'est à travers ce type de traitement que Carpaccio traite la légende et la rend présente. Dans quelque chose qui est propre au réel, pour ce qui concerne Venise, les Vénitiens, les Patriciens, etc., les détails des dames vénitiennes, qui est propre au réel, mais qui, par d'autres détails, est surréel. C'est-à-dire légendaire, pour l'époque. Bien entendu, le surréalisme n'existait pas. Donc, ce qui nous apparaît comme, aujourd'hui, surréaliste, eh bien, c'est notre façon à nous d'appréhender ce qui, à l'époque, était vécu comme légendaire.
Dans Carpaccio, nous avons des particuliers qui sont réalistes, mais le général qui était d'altération, des visions oniriques. Alors, il a une grammatique réaliste dans l'attention flamand au particulier et une syntaxe surréaliste, une composition des éléments qui n'est pas ordinée et il a toujours la sensation qu'il ne regarde pas la réalité mais seulement sa vision intérieure. Avec le sens de Saint-Ursule qui est dans les lits, nous voyons avec elle son songe. Avant elle, il y a l'ange qui vient pour annoncer son martyre. Et nous voyons ce qu'elle pense, ce qu'elle voit dans les songes. C'était un réalisme et surréalisme dans le même temps. Et pour la réalité des intérieurs du palais vénitien, nous avons les épisodes des ambassadeurs qui sont dans un lieu avec une décoration d'intérieur con des marbres extraordinaires, qui sont des marbres qui vient de la tradition romaine et constantinopolitaine avec beaucoup de porphyres, des écrouages qui sont les plus extraordinaires représentations des intérieurs comme il était au temps de Carpaccio, la vérité. Mais il, dans Montaigne, fait les visions, les apparitions. Il y a un autre tableau dans l'école de Saint-Georges avec la vision de Sant'Agostino qui voit l'image de Saint-Jérôme. L'image, c'est pure lumière, seulement lumière. Il vient en lumière et c'est l'apparition, n'est pas le corps, mais la lumière qui vient de lui. Et l'intérieur, c'est une extraordinaire bibliothèque, Wunderkammer, avec tous les objets d'un homme de culture, les livres, les bronzes, les petits bronzes, les tableaux. C'est l'humanisme, un merveilleux gré de représentation, la plus extraordinaire que c'est que possible d'imaginer.
Dans les grandes peintures d'Ursule, par exemple, nous avons des personnages dont nous pouvons nous imaginer qu'ils sont en train de penser ce que nous voyons. Je veux dire que, par exemple, dans l'arrivée des ambassadeurs, il y a sur la droite une vieille femme méditative. Et on peut lire le tableau comme le souvenir d'une nourrice qui se souviendrait de la façon dont sont venus les ambassadeurs demander Ursule pour errer. Ou bien dans le départ, c'est un jeune homme qui est à son écritoire. Et donc il est aussi là comme le mémorialiste de ce que nous voyons. Et il y a ainsi comme cela des sortes... Bon, encore, dans la rencontre des fiancés, un jeune homme qui tourne le dos à la scène et qui regarde nous qui regardons l'œuvre. Et donc qui s'en détache en quelque sorte. Et ces personnages donnent l'impression que l'œuvre est pensée, rêvée, songée par quelqu'un.
Ah oui, ils sont plus loin. Je crois la fin des illustrations. Voilà.
Voilà. Voilà. Alors ça aussi, c'est très étonnant parce qu'on a la légende de Sainte-Ursule avec 10 000 vierges et on a une autre légende avec 10 000 martyrs qui, eux, sont des hommes. Hein, qui... Donc il n'est pas impossible du tout que le cycle de la légende de Sainte-Ursule ait fait tellement d'impression et eu tellement de succès qu'on ait ensuite commandé à Carpaccio des choses qui sont vraiment des tours de force. Parce que représenter le nombre dans une seule peinture, c'est aussi un tour de force.
Il appartient vraiment pleinement, comme je l'ai dit, à la génération de Giovanni et Gentile Bellini. C'est quelqu'un... Alors, on ne sait pas très bien qui a été vraiment son maître, mais très probablement, en tout cas, il a beaucoup appris au contact de Gentile et de Giovanni Bellini. Il s'inscrit vraiment dans cette lignée-là. C'est un brillant continuateur, pourrait-on dire, de Giovanni et Gentile Bellini. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, comme il est né beaucoup plus tard qu'eux, en 1465, il va aussi vivre beaucoup plus tard qu'eux, jusqu'en probablement 1526, ce qui veut dire donc qu'il va connaître les jeunes artistes, les jeunes révolutionnaires comme Giorgione et comme Titien. Et donc, il va même être appelé à juger des œuvres de son jeune collègue Giorgione, puisqu'il va être appelé à faire l'estimation des grandes œuvres de Giorgione, qui sont les fresques du Fondaco dei Tedeschi. Et donc, on peut se demander si à un certain moment, il n'a pas eu le sentiment que sa manière était un peu vieillie d'une certaine façon, puisqu'elle appartenait au siècle précédent. Donc, ce qui est assez émouvant, c'est que dans certaines œuvres, on a le sentiment justement qu'il cherche un peu à se renouveler, à se mettre au pas avec la modernité d'une certaine façon. Et par exemple, dans la lapidation de Saint-Étienne, qui est conservée à Stuttgart, il cherche à donner, alors qu'auparavant ses compositions étaient relativement iréniques, si je puis dire, avec des personnages qui semblent se promener, converser élégamment, mais sans véritablement de violence de l'action, de drame en quelque sorte. Dans la lapidation de Saint-Étienne, au contraire, il cherche vraiment à introduire une sorte de dramatique, de caractère dramatique, de caractère violent pour traduire justement la violence du martyr. Mais on a l'impression qu'il a quelques difficultés quand même à y parvenir. Et alors que la prédication du Louvre est un tableau tout à fait émouvant et magnifique, mais il appartient encore à la tradition dont il est issu, la lapidation déjà est un tableau un peu curieux, un peu étrange, où on sent vraiment que les figures ont un peu de mal à se mouvoir. En quelque sorte, il a un peu de mal à trouver ce que Warburg appelle le grand style pathétique. Donc ça, c'est un premier exemple. Et puis ensuite, le grand exemple, finalement, c'est le martyr des 10 000, des 10 000 chrétiens, qui est aujourd'hui conservé à l'Académie, qui avait été peint pour une église aujourd'hui disparue de Venise. Et dans ce tableau-là, alors là c'est encore plus surprenant, il cite les modèles les plus modernes en quelque sorte, c'est-à-dire Michel-Ange d'un côté, et puis les grands antiques comme le Marsyas. Et Michel-Ange, il va citer, et je crois que c'est le premier peintre à Venise à le faire aussi explicitement, il va citer donc des morceaux de la chapelle Sixtine, qui est vraiment l'œuvre la plus extraordinaire de l'époque, hein, qui témoigne de la rupture la plus totale avec le passé. Et donc il cite en particulier un détail, une figure qui est reprise de la crucifixion d'Amant, donc de la chapelle Sixtine de Michel-Ange.
Mais on s'y arrête sur ces 10 000
martyrs ? On peut regarder, oui.
Ce
tableau. Et donc, simplement, si on regarde ce tableau, en fait, on s'aperçoit, on comprend pourquoi il a utilisé ce modèle de Michel-Ange, c'est que ce tableau représente donc des martyrs chrétiens qui doivent être crucifiés. Et ces martyrs, donc, sont nus. Donc, c'est un ensemble, un très, très grand ensemble de nus masculins. Donc évidemment, c'est la représentation du nu masculin est un problème que Carpaccio a rarement eu l'occasion de se poser. Donc il fait appel à celui qui est évidemment le grand modèle, celui qui a révolutionné complètement la peinture avec cela, qui est Michel-Ange. Donc c'est pour ça, évidemment, qu'il va se tourner vers Michel-Ange. Mais si on regarde bien ce tableau, finalement, la figure issue de Michel-Ange, qui est donc l'un des martyrs suspendus et crucifiés à un arbre, si on ne savait pas le modèle, et je pense que tous les gens qui vont à l'Académie aujourd'hui qui ne connaissent pas le modèle de Michel-Ange, on ne s'aperçoit absolument pas de cette situation. Elle est pratiquement invisible. Et on peut se demander pourquoi Carpaccio a eu besoin de faire appel à Michel-Ange, alors que finalement, il en tire un parti aussi médiocre, d'autant plus médiocre que finalement, on sent très bien qu'il ne comprend pas son modèle, puisque le modèle de Michel-Ange est l'un de ses nus les plus virtuoses, avec ce qu'on appelle un double contrapposto, c'est-à-dire les bras et les épaules tordus dans un sens, alors que les jambes sont tordues dans l'autre. On a une double diagonale, en quelque sorte. Le corps est en proie à une double diagonale, et ça, Carpaccio est visiblement totalement incapable de le reproduire. Donc, déjà, il est incapable de le reproduire. Ensuite, finalement, ce martyr est perdu au milieu de milliers d'autres nus, et donc on ne sent pas du tout ici qu'il y a la présence de Michel-Ange. Et donc, ce que je me demande, c'est si, et ce serait encore plus émouvant, si de sa part, c'est pas une espèce de façon de s'affubler d'une sorte de modernité postiche. Et peut-être, on peut se rêver qu'il disait à ses commanditaires: ah, vous voyez, là, je suis moderne, là, je cite Michel-Ange, mais finalement, l'effet, on se rend bien compte, est totalement perdu, parce que c'est vraiment quelque chose qui est d'une culture totalement étrangère à la sienne.
Mais il me semble que le grand moment de cet ensemble de peintures, c'est le Saint-Augustin. C'est la vision de Saint-Augustin dans son studio. Parce que, en vérité, ce que l'on appelle la vision de Saint-Augustin n'était pas une vision, c'était une écoute. Saint-Augustin, l'auteur du De Trinitate, entre autres des confessions, mais pour le socola du De Trinitate, c'est-à-dire d'un grand livre sur la Trinité, Père, le Fils et le Saint-Esprit, ça fait couler beaucoup d'encre. Donc ce Saint-Augustin, qui est dans une salle d'études, un studio, où c'est d'un luxe et d'un charme fou, Saint-Augustin, dans la légende, ne voit pas Saint Jérôme. Et d'ailleurs, Saint Jérôme n'apparaît pas sur la peinture de Carpaccio. Il l'entend. Donc, là, on est dans un tableau extrêmement savant parce que l'objectif de Carpaccio est de faire voir ce qui a été entendu. Cette vision de Saint-Augustin se produit à ce moment précis. Saint-Augustin est dans son cabinet de travail et il entend une voix, la voix de Saint-Jérôme qui vient de mourir. Saint-Jérôme...
qui est le tableau d'avant dans la
chapelle. Qui est le tableau d'avant dans la chapelle. Donc il y a un lien très très étroit, évidemment. La chapelle était liée en vérité à Saint-Jérôme et à Saint-Georges. Il faut savoir que Saint-Jérôme, c'est le traducteur de la version officielle de la Bible. Il l'entend et Saint-Jérôme lui annonce qu'il vient de mourir. Et à partir de ce moment-là, puisqu'il vient de mourir, évidemment, c'est un saint, il est au paradis, Saint-Augustin lui pose des questions sur la Trinité. Et Saint-Jérôme répond. Donc on a un tableau qui montre quelque chose qui a été entendu et qui représente la source du savoir de Saint-Augustin sur la Trinité. Donc on peut supposer que le livre sur lequel Saint-Augustin travaille et qui est posé devant lui sur la table, eh bien, c'est ce De Trinitate. Et on ne peut pas être mieux informé, évidemment, si on y croit, que dans la sainteté, au paradis, où tout cela doit être beaucoup plus clair que sur la terre, il va de soi. Donc c'est un tableau très complexe et très très savant qui illustre de façon légendaire, le savoir de Saint-Augustin.
Alors là est le génie de Carpaccio, que de nous illustrer ou que de nous donner à voir quelque chose de complètement abstrait, d'abord, et puis un dialogue, enfin ce qui se passe, comme vous le dites, Marcelin Plenet, au niveau de l'écoute.
Absolument, et il le fait de multiples façons. Il le fait d'abord de la même façon que dans le songe de Saint-Ursule. Il le fait d'abord par une lumière qui vient de deux sources. Une source naturelle, qui est à la gauche du tableau, et une source surnaturelle qui est à sa gauche. D'où vient la voix ? On est dans un espace parfaitement Renaissance, ce qui évidemment n'est pas l'époque à laquelle Saint-Augustin écrit et où Saint-Jérôme lui-même traduit. On est dans un espace Renaissance d'un très très grand luxe et d'une très très grande beauté. On l'a comparé, d'abord, semble-t-il, à cause des deux portes Renaissance qui sont au fond du tableau, au fond du studio, que l'on a comparé à la porte qui se trouve dans la partie gauche de la flagellation de Piero della Francesca. Donc on est dans un espace de Renaissance savante et de Renaissance extrêmement civile et abstraite.
Puis on a tous les objets.
Évidemment. Alors on a tous les objets qui bien sûr évoquent, on a le Christ en gloire qui est sur un autel. Et puis on a une petite sculpture qui est vraisemblablement une Vénus. Comme d'ailleurs dans le songe de Saint-Ursule, on a deux sculptures, une Vénus et un Hercule. Il faut savoir qu'à la fin du 15e, évidemment, le grand livre italien, qui d'ailleurs est publié à Venise par le plus grand éditeur vénitien de l'époque, le grand livre italien, c'est évidemment la Divine Comédie. Bien sûr, Dante donne une place particulière, dans le cadre d'une légende chrétienne, une place particulière à la culture grecque et latine. Mais vous avez une chose qui est très importante et qui répond du charme de l'ensemble et surtout de l'extraordinaire réussite chromatique de cette peinture. Vous avez en bas et à droite du tableau une partition de musique. Et qu'est-ce que c'est qu'une partition de musique ? C'est quelque chose qui peut être lu ou qui peut être entendu. Or, le tableau qui s'appelle « La vision de Saint-Augustin » est en vérité l'écoute de Saint-Augustin. Donc vous voyez qu'il y a dans cette peinture une organisation aussi complexe, aussi subtile et aussi savante que possible.
Thank you.
Ettore Carpaccio, avec Marcelin Plenet, Jean Roudeau, Vittorio Sgarbi, Michel Hochmann et Pierre Rosenberg, président directeur honoraire du Musée du Louvre. Les textes sont lus par Caroline Ducey et Serge Renko. On peut lire de Michel Hochmann, Venise et Rome, deux écoles de peinture et leurs échanges, édition Drose. Carpaccio, de Vittorio Sgarbi, édition Liana Levi. Prise de son, Julien Bourdet et Serge Ristich. Mixage, Philippe Palares. Une émission de Simone Dweck, réalisée par Brigitte Bouvier.